C'est à nous, mon petit Bernard. Montre le retour, on n'entend rien dans les casques. Voilà. Voilà, parce que c'est à nous. Hein. Bernard, bonsoir. Est-ce que tout va bien?
Il fait chaud.
Il fait chaud, ouais.
Il fait chaud, on a les cerveaux.
On a les cerveaux liquéfiés par la chaleur.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis, bienvenue à Yvan, notre invité du jour.
Oui, on va. Alors, il n'y a pas eu de jingle. C'est normal? Moi, ça me perturbe quand il n'y a pas de jingle. Bon, ben, c'est pas grave, on va lancer l'émission comme ça. Mais il n'a pas de casque, le Bernardo! T'as pas de casque?
Ça tient chaud, le casque.
Le jack est bousillé.
Oh, d'accord. Oh, ben, alors ça, c'est, on est un peu dans la merde, c'est le jack est bousillé. Donc, pas de casque pour Bernard, je comprends. Hein. Bon, comme vous l'avez compris, Yvan est avec moi ce soir. Et comme c'était... tac. Ce qu'il y a de bien, heureusement, on n'est pas sur France Inter, ça sent quand même. Hein. Voilà, alors attends voir. Yvan, voilà, je vais y arriver.
Bonsoir.
Merci Yvan d'être venu, Yvan Mitifio, le chroniqueur cinéma, par ailleurs directeur artistique d'écran mixte.
Oui.
Voilà.
Avec une grosse actualité au mois de juin.
Avec une... Je sais que tu en as toujours une grosse actualité. Chaque fois que tu viens en juin, d'ailleurs, bah, on va en parler dimanche, il y a quelque chose déjà.
Bien sûr. Ah, voilà. Oui, dans le cadre de la quinzaine des cultures LGBTI,
voilà.
On a deux projections dimanche au Lavoir Public.
Ouais.
18h, un documentaire inédit formidable, La fière journée de Vincent Bourgeon. Le réalisateur du film Vivant, rappelez-vous, Vincent Bourgeon, en 1997, pour la deuxième marche qu'on appelait à l'époque la Gay Pride, lesbienne et Gay Pride, il a donc filmé la deuxième marche lyonnaise et il a interviewé les militants de l'époque. C'est passionnant, c'est un documentaire de 52 minutes et les militants de l'époque seront au Lavoir Public pour un débat autour de ce film, La fière journée, qui est tout à fait remarquable. Vincent Bourgeon sera là. Ne ratez pas cette séance à 18h dimanche au Lavoir. Et ensuite, à 20h, une reprise du Festival Écran Mixte. Ce sera le documentaire Kiki, nouveau documentaire de référence sur le voguing. Film absolument miraculeux, absolument magnifique. On avait tellement refusé du monde à cette séance de Kiki lors du dernier Festival Écran Mixte qu'on s'était promis de lui refaire une séance de rattrapage. Et quel meilleur... opportunité que de la faire lors de cette merveilleuse semaine des cultures LGBTI qui a démarré vendredi dernier.
Voilà, donc ça c'est dimanche 18 juin à 18h au Lavoir, 18h et à 20h pour le film Kiki, 18h projection de la fière journée de Vincent Bourgeon et 20h projection du documentaire Kiki. Tout ça sous l'égide de Écran Mixte.
Écran Mixte et aussi les associations partenaires, FRIS, AID, le Lavoir Public, le Forum Gay et Lesbien.
Alors nous rappellerons, mais nous reviendrons là-dessus en fin d'émission, que samedi, c'est la Marche des Fiertés à Lyon. Hein. Donc on en reparlera, on citera quelques initiatives qui ont lieu ce samedi spécifiquement pour la Marche des Fiertés. On y reviendra en fin d'émission. Nous, notre émission va être consacrée aux séries LGBT. Alors pourquoi on a décidé de faire ça? Parce qu'il y a Les Engagés. Les Engagés, c'est une web-série qui a été tournée à Lyon. Qui est une web-série qui est financée, qui est coproduite en tout cas, et financée aussi donc, par la même occasion par France Télévisions, via le studio, je ne sais plus, c'est Studio 24, je crois.
Non, Studio 4, c'est la plateforme.
Ah oui, je confonds avec Studio 54 à New York, là, je ne sais pas quoi. Non, oui, c'est la plateforme web, en fait, de France Télévisions.
D'être voilà. France Télévisions sur YouTube.
Voilà. Et donc, du coup, la diffusion des épisodes, alors il y a 10 épisodes de 10 minutes, je crois.
C'est ça.
Hein, et se fait sur le web pour l'instant. Si on vous allez sur le site de Pluriel Gay, d'ailleurs, il y a un lien pour accéder aux émissions. Au feuilleton, voilà.
Alors il y a quand même
la chaleur, hein, disons.
Il y a quand même un enjeu à cette vision, puisque plus il y aura de vues de cette web série, plus elle aura de chances d'être diffusée sur le bouquet de France Télévisions.
Voilà, oui, parce qu'il est prévu une diffusion effectivement en télévision traditionnelle.
Si ça marche. Donc il faut aller voir tous les épisodes, voilà. Et les revoir.
Et ce serait sur TV5 Monde, j'ai vu. Alors par contre, j'ai vu quand même que aussi, en consultant donc les épisodes, qu'ils avaient quand même pas mal de monde déjà qui était passé. Il y a plus de 50 000, allez, quand j'y suis allé la dernière fois, plus de 50 000 clics, plus de 50 000 visionnages. Donc c'est déjà pas mal, c'est bien parti.
Mais ce qui fait plaisir, c'est que quand on va sur la plateforme, donc de plateforme YouTube, on voit que vraiment la série est vraiment très mise en avant avec un magnifique habillage. Donc c'est absolument merveilleux pour la visibilité. Puisque les web-séries ont ceci de particulier qu'elles offrent encore une meilleure visibilité qu'une série télé d'ailleurs. Ça permet à des très jeunes notamment de s'identifier dans leur chambre et de voir que la vie homo existe. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus.
Décidément, la chaleur, vraiment, fait des dégâts. En tout cas, oui, les jeunes peuvent voir ça, enfin les gens peuvent voir ça, les ados dans leur chambre tranquillement, à l'abri, je dirais un petit peu. C'est pas comme la télévision qui est plus un outil médiatique familial, on dira. Avec là, ils peuvent aller seuls découvrir la série sans avoir.
Et aussi, et les séries télé ont aussi des contingences commerciales. Les personnages LGBTI évoluent selon les annonceurs aussi de pub. Ça, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, en tout cas, allez voir la série Les Engagés, c'est étonnant. C'était tourné à Lyon, au centre LGBTI.
Rebaptisé pour la série Point G, d'ailleurs.
Le Point G. Et puis quand même, il faut le saluer, le personnage principal est quand même un personnage issu de l'immigration, parce que c'est un jeune, c'est quoi ? C'est un jeune Tunisien, un jeune Algérien.
C'est un beurre.
C'est un jeune rebeu, comme on dit de nos jours. Donc quand même, une série LGBTI, un jeune rebeu en tant que héros. Franchement.
Oui. Alors, de toute façon, nous, tu sais, on avait consacré un reportage, on avait fait un reportage sur les lieux du tournage donc de cette série en mars, quand elle a été tournée à Lyon. C'est Jeffrey Jordan qui avait fait le petit reporter pour nous à cette époque, à cette occasion. Et ce soir, on écoutera trois petits extraits donc de ce reportage qui durait une 30 minutes. Là, donc, on a pris des extraits choisis, je dirais. Et d'ailleurs, on peut éventuellement, si Bernard m'écoute, passer le premier parce qu'il n'y a pas de prise jack, il n'y a plus rien pour communiquer. Tu nous entends, Bernard, au moins. Donc, très bien. Alors, on va passer le premier son qui est en fait l'interview, un extrait de l'interview de Sullivan Le Postec, je vais y arriver. Sullivan Le Postec, qui est le scénariste, hein, c'est le scénariste de cette série Les Engagés. On va l'écouter tout de suite si Bernard veut bien. Je ne sais pas ce qu'il fait, Bernard. Non, mais c'est la chaleur, hein, je te jure. 35 degrés,
attention.
C'est à Lyon, c'est très chaud. Et là, dans les studios, je ne dis pas, on se croirait au sauna. Je sais pas, Bernard.
Il a été hydraté.
Ah, ben, je sais pas, j'espère. C'est qu'à son âge, il faut s'hydrater. C'est très important. Ce qu'on lui a dit, au moins, il doit le savoir. Il est en train de batailler, le pauvre Bernard, que ça n'est pas possible. Quand je pense qu'on a une audience phénoménale ce soir, voilà, il faut donner une bonne image. Il faut donner une bonne image.
Je te demande de te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu dans la série? Et ton parcours.
Donc, je m'appelle Sullivan Le Postec. J'ai créé et écrit cette série Les Engagés. Je suis scénariste depuis déjà quelques années. J'ai écrit quelques épisodes de séries, notamment une série qui s'appelle Falco. J'ai été formé à Berlin dans une formation qui s'appelle Serialize, qui est un programme européen. On était 12 scénaristes producteurs venus de toute l'Europe. Voilà un peu.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette série est différente ?
Déjà, même s'il y en a eu pas mal en France, il n'y en a pas eu tant que ça. En fait, en financier, il n'y en a même pas eu du tout. Donc, on a certes beaucoup de retard, mais on a un manque à combler. Je pense que notre approche des questions LGBT n'est pas exactement la même que l'approche anglo-saxonne. Et du coup, on a un vrai point de vue à défendre, il me semble, à ce niveau-là. On parle de la question sous l'angle de militants, des militants de terrain, des militants associatifs, ce qui a été relativement peu traité jusqu'ici, même si en fait au moment où on tourne là, on est en train de diffuser aux États-Unis When We Rise sur ABC, qui raconte toutes les années du militantisme homosexuel aux États-Unis, donc c'est un truc un peu d'époque sans doute aussi, mais voilà, je pense qu'on a un angle qui est relativement différent.
La chose la plus plaisante dans ce rôle de scénariste, c'est laquelle ?
Surtout sur ce projet-là et de la manière dont il se passe, j'avoue que c'est vraiment super agréable d'être ici et de le voir prendre forme. C'est un projet que j'ai porté pendant longtemps, parce que j'ai écrit une première version du pilote en décembre 2010. Ah oui. Et voilà, il m'a fallu beaucoup d'années pour convaincre des gens autour de moi de partir dans cette aventure. Donc du coup, de l'avoir fait depuis un an et demi, et de voir maintenant qu'on est ici à Lyon, qu'il y a une grosse équipe sur le tournage, qu'on tourne, qu'on avance, qu'on filme, que les personnages prennent vie, ça c'est vraiment, vraiment très agréable.
Et la plus déplaisante, du coup ? S'il y en a une.
C'est ça, à part d'avoir été grosso modo pendant 4 ans tout seul avec mon bâton de pèlerin et essayer de convaincre les gens que ça pouvait se faire. Sinon, le reste, ça a été plutôt agréable.
Qu'est-ce que cette série vous a apporté personnellement, a changé chez vous ?
Je ne sais pas si elle a changé des choses chez moi. Moi, j'ai vécu à Lyon plusieurs années, entre 2003 et 2008. Et pendant ces années-là, j'ai milité dans les associations. Et du coup, écrire sur ce sujet, même une histoire de fiction totalement, avec des personnages inventés, mais dans un univers que j'ai bien connu, c'était une façon de parler des paradoxes de l'engagement, en fait, de la sensation que j'ai qu'on a besoin de gens engagés aujourd'hui plus que jamais, parce que les choses vont pas forcément super bien. Mais qu'en même temps, c'est très dur d'être militant, parce qu'en gros, j'ai l'impression que 98% de l'énergie qu'on dépense est gaspillée dans des choses inutiles ou des luttes politiques internes qui font pas bouger la société ou qui font rien avancer. Et du coup, la série, c'est une façon pour moi d'argumenter avec moi-même sur ce paradoxe-là.
Alors pourquoi le format web plutôt que le format télé ? Est-ce que c'était un choix du réalisateur ? Est-ce que c'est un média qui est plus efficace ou est-ce que c'est les diffuseurs télé qui étaient trop frileux ?
À la base, c'est un projet qui avait été écrit pour la télé traditionnelle, comme on dit, la télé linéaire. Effectivement, moi j'ai rencontré beaucoup de producteurs autour de ce projet qui plaisaient plutôt, mais on me disait tout de suite, c'est super bien, mais ça on te l'achètera jamais, parce que nous on nous l'achètera jamais. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses dont on peut parler ? Et c'est vrai que ce qui a finalement permis à ce projet de naître, c'est la naissance, il y a à peu près 2 ans maintenant, de projets vraiment financés sur le web, à la fois là où on est, chez Studio 4, qui est la branche web de France Télévisions, et puis il y a d'autres offres concurrentes, notamment celle de Canal+, qui s'appelle Studio+, et d'autres qui sont en cours de création, où il y a des séries comédies ou dramatiques relativement bien financées qui commencent à apparaître et qui permettent du coup d'aller défricher d'autres terrains en termes à la fois d'histoire et de sujets comme celui-ci, et aussi dans la manière d'écrire, parce que c'était le second problème. Moi, j'avais envie d'avoir une écriture proche des personnages, qu'il n'y ait pas de cadavre au début, pas d'enquête au milieu, et voilà. Et ça, c'est encore plus difficile, donc là, on peut être sur un vrai drame de personnages où les conflits intérieurs de nos personnages et ce qu'ils traversent sont finalement, c'est ça qui est mis au premier plan de la série et pas les incidents du plot, de la narration.
Pluriel gay. Ah, j'ai le jingle, je suis content. Voilà.
Bah oui, une petite hydratation, un petit verre d'eau et puis c'est parti.
Est-ce bien de l'eau, Bernard ? Attention, je surveille, je veille au grain. Donc nous avons eu l'occasion, à l'occasion en tout cas de cette série, Les Engagés, nous avons pensé faire un petite anthologie des séries LGBT. Alors, bon, les séries LGBT sont apparues quand même assez tard, dans les années 90. Je te donne la parole après, Yvan, t'inquiète pas, je te sens que t'es prêt à bondir, ouais. Mais moi, je voulais dire qu'avant ça, bon, il y a eu des personnages récurrents dans certaines séries, mais encore avant, il fallait faire ce que faisait beaucoup, c'est-à-dire avoir sa propre lecture de certaines séries. Et il y a une lecture très célèbre, ce qui a été faite dans le sens crypto-gay, c'est évidemment Les Mystères de l'Ouest.
Ouais.
Voilà, Les Mystères de l'Ouest. D'ailleurs, dont le créateur, qui s'appelait Michael Garrison, était ouvertement gay. Un des rares personnalités de la télévision à Hollywood à l'époque à être ouvertement gay. Ce qui permet de penser quand même que tous les messages queer, gay, etc., crypto-gay, ne sont peut-être pas que des fantaisies, puisque après, bon, tout est sujet à interprétation. Mais il est vrai qu'on a dit, par exemple, alors on se rappelle, hein, c'est une série américaine qui a eu un énorme succès aux États-Unis, qui a été multidiffusée en France aussi, qui, à mon avis, était une excellente série aussi sur le plan esthétique, d'ailleurs, les décors, etc. C'était très bien fait. Alors, ça mêlait un peu le western et le fantastique. Il y avait donc deux protagonistes principaux, James West. Et donc, James West, lui, qui serait plutôt dans le symbole du virilisme homosexuel, toujours avec des costumes moulants, des pantalons en cuir, etc. Très souvent, on a l'occasion de le voir se faire ligoter par ses ennemis. On lui arrache sa chemise et on voit son torse qui est mis en avant. Voilà. Donc, et puis, à côté de ça, son comparse, c'est Artemus Gordon, qui est donc... alors, tous les deux, ce sont un peu des James Bond de l'époque. Ils travaillent pour le gouvernement américain pour déjouer tous les complots des infâmes qui voudraient, évidemment, mettre à terre l'Union. Hein, ça se passe juste après la guerre de sécession aux États-Unis. Alors, Artemus Gordon, donc son alter ego, je dirais, symbolise, lui, le gay dans son côté camp, dans son côté le plus extravagant. Alors, c'est quelqu'un qui aime le travesti, déjà. Il change souvent de costume, il change d'apparence, que ce soit en homme ou en femme, il change de voix. C'est un transformiste, voilà, ni plus ni moins. Et ces tenues sont d'autant plus efficaces qu'elles sont souvent très extravagantes. D'ailleurs, il faut se rappeler que le titre aussi, Wild Wild West, en anglais, a plusieurs significations. Wild Wild West, c'est l'ouest lointain, l'ouest sauvage. Mais on dit de quelqu'un dans le vocabulaire camp américain, you're wild wild. Ça veut dire t'es une vraie folle dingue. Ou quelqu'un de wild wild, c'est aussi quelqu'un de très, qui a une libido. On reparlera de libido tout à l'heure, d'ailleurs. Très chaude, on va dire, très développée, voilà. Alors, et non, on a énormément parlé du côté, on dit c'est vraiment la première série homosexuelle, ce n'est pas vrai, puisque c'est une interprétation. Mais bon, comme le créateur était gay lui-même, etc., on peut supposer que... Ensuite, je n'ai pas fini, mon petit Yvan, après tu me prendras le relais, je voulais parler des envahisseurs, parce que personne ne parle des envahisseurs.
Ah, tiens.
Écoute, moi, mais ça c'est mon interprétation personnelle, les envahisseurs, grande série de science-fiction américaine, succès énorme aux États-Unis, multidiffusée en France, David Vincent les a vus. Et que nous dit-on dans les envahisseurs que devant un monde incrédule, David Vincent doit prouver que le cauchemar a déjà commencé. Or, de quel cauchemar s'agit-il? Eh bien, moi, je dis, parce que les invasions, on ne sait pas d'où ils viennent, de quelle planète, on ne sait jamais. Aucun des épisodes ne donne le moindre indice.
Ce sont des tentes?
En gros, voilà, c'est ça, en gros. C'est-à-dire, si tu veux, ce sont effectivement les homosexuels qui veulent s'emparer du pouvoir et prendre la mainmise sur la société mainstream. Et je te rappelle qu'à l'époque du mariage pour tous, des grands débats qu'il y avait eu pour le mariage pour tous, Christine Boutin n'avait-elle pas parlé de l'invasion des homosexuels? Et il y avait même eu des parodies, d'ailleurs, avec Christine Boutin, où on voit des affiches, où on voit débarquer des soucoupes volantes et des homosexuels qui envahissent la Terre. Le rapport avec les envahisseurs était évident. Et puis, rappelle-toi, les envahisseurs, une des façons de les reconnaître...
Eh oui.
Ils avaient le petit doigt en l'air.
Le petit doigt en l'air.
Ben oui, ils ne pouvaient pas baisser le doigt, là. Tu sais, là, ils avaient le doigt désespérément coincé vers le haut. C'est comme toi, quand tu touilles ton thé, tu vois, à 17h. Alors, et quand tu prends tes petites friandises sucrées, et ben voilà. Donc, Les Envahisseurs est une série...
Les Envahisseuses, alors.
Les Envahisseurs et les Envahisseuses. D'ailleurs, il y avait aussi des femmes envahisseuses, hein, ça concerne les gays et les lesbiennes, hein, on est d'accord. Donc, voilà, les séries crypto-gays. Donc, il fallait avoir beaucoup d'imagination, quand même, pour, à l'époque, dans les années 50, 60, puisque ce sont des séries que j'ai citées des années 60.
Et puis, il y avait quand même...
Interpréter.
Il y avait Magnum aussi, quand même, avec son poitrail velu, quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, Magnum, c'est un petit peu plus tard, c'est les années 70, mais c'est vrai aussi qu'il avait un côté très macho...
Avec sa moustache et tout.
Voilà, macho Castro Street San Francisco. C'est vrai. Et puis, donc, elle, Christine Boutin, pour les Envahisseurs, ne s'y était pas trompée, en tout cas. Nous avons parlé de l'invasion des homosexuels. Après, il y a eu des séries qui, je dirais... Après, t'inquiète pas, je vais te laisser la parole... Il y a eu des séries qui n'étaient pas vraiment des séries homo, mais ça c'est un peu plus récent dans les années 90, mais qui étaient formatées un petit peu pour les homos. Et je parle par exemple à une série britannique très célèbre, c'est Absolutely Fabulous, bon, qui est écrite par Jennifer Saunders et jouée par Jennifer Saunders, où là c'est un rôle de deux Queen Beach, on peut dire. Une qui est vraiment trash, c'est Patty Stone, qui est John Alumley, qu'on connaissait pour avoir joué le dernier rôle de la partenaire de John Steen dans Chapeau blanc en mode de cuir. Dernière saison, c'était Pearl Day. Et là, elle nous apparaît en femme complètement accro à la cocaïne, perfusée à l'alcool, avec 15 cigarettes dans la bouche, et puis prête à payer n'importe quel gigolo pour se faire un petit plaisir, et puis qui, depuis 1973, elle même le dit, hein, suit des régimes, elle est anorexique, quoi, complètement névrosée, anorexique. Toutes les deux sont folles, véritablement folles. Sa copine, c'est Edina Moonsoon, donc jouée par Jennifer Saunders, également créatrice de la série. Toutes deux sont fashion victimes, elles habitent à Londres. C'est britannique, donc c'est complètement excentrique, évidemment. Et donc, il y a eu surtout dans cette série était aimée des gays, on le sait. Moi, je me souviens avoir vu des pancartes quand le feuilleton s'est arrêté, qui disait « Rendez-nous Abfab », puisque c'était là une diminution, on dit Abfab pour le feuilleton. Et des répliques sont devenues des répliques cultes dans le monde gay, dans le monde camp gay, je dirais. Alors, je vais en citer deux ou trois. Il y en a, mais des milliers qui ont été reprises. Par exemple, du style Patsy Stone, parce que c'est surtout Patsy Stone qui balançait des trucs pas possibles. Bah,
c'est Amanda Lear.
Des grosses vaches. Voilà.
C'est Amanda Lear.
Amanda Lear, encore pire, je dirais, en poussé à l'extrême. Elle disait par exemple, je lui ai dit que la seule chose qui lui allait bien, c'est un sac mortuaire. Voilà, chose que tu peux dire à ta meilleure ennemie, par exemple, Yvan, j'en suis sûr, Bernard aussi d'ailleurs. Et puis une autre du style, elle est tellement froide, je suis sûr qu'elle a ses règles sous forme de glaçons. Voilà. Alors ça, c'est les répliques, parmi les répliques cultes, mais on pourrait en faire un catalogue entier. Hein. Voilà, bon, il y a eu un remake fait en France, d'ailleurs, parce que la série a connu un énorme succès en France. Les droits avaient été rachetés et il y avait un remake qui a été fait, donc, dans lequel apparaissait notamment Chantal Goya.
Ah oui, mais c'était surtout Josène Balasco.
Et Josène Balasco avec...
C'est absolument épouvantable, irregardable.
Voilà, bon, ça, les vrais amateurs de Absolutely Fabulous.
Mais c'est tellement anglais, ce n'est pas français, voilà. Ce n'est pas la culture française.
Mmh. Et puis, c'est une façon de dire aussi Absolutely Fabulous. Et ça vient de là, Absolutely Fabulous. Quand on est guerlier, c'est difficile hein, pour un non-anglophone, mais je vais essayer d'y arriver. Absolutely Fabulous. Absolutely Fabulous. Voilà. C'est de là qu'est parti le nom de la série. Bref. Donc, après, on pourrait pas gloser sur plein de séries, mais je vais te laisser quand même la parole. On a parlé aussi Starsky et Hutch, il y avait des allusions.
Oui. Bon, on a dit ça, oui.
Ça on va. A dit ça. Puis, petit à petit, dans les séries américaines, essentiellement américaines, sont apparus sur la pointe des pieds des épisodes qui ont sacré l'homosexualité. Je pense à un épisode de Dallas. Il y a eu un épisode de l'homosexualité.
Exact.
Ouais. Et voilà, a été traité où un homme d'affaires avait été propulsé dans les bras de la nièce du méchant, la JR. C'était Lucy Ewing.
Qu'on appelait la saucisse.
Qu'on appelait la saucisse, voilà. Et donc, en fait, c'est avéré qu'il était homosexuel et qu'elle n'a pas pu l'épouser.
Ça, c'est juste un seul épisode. Hein.
Oui, c'est sur un seul épisode.
Voilà. Ça, c'est quand les scénaristes veulent faire des rebondissements ou du suspense. Ils inventaient un personnage d'homosexuel qui durait le temps d'un épisode.
Et peut-être aussi faire un petit coup quand même dans les côtes de la communauté homosexuelle en disant « Hey, regardez, on s'occupe de vous aussi un petit peu ». Il y a aussi un peu de ça. Hein. On peut dire quand même qu'il y avait toujours, il orniait un petit peu sur les différentes communautés. C'est ce qui se passe souvent dans les séries. On va mettre, à l'époque, on mettait le black de service, on mettait l'asiatique de service, puis de temps en temps, on avait le gay de service.
C'est ça.
Puis, toujours une série mainstream, et c'est là que je vais te laisser la parole.
Ah, ça, je vais en parler.
Oui, voilà, c'est Dynasty.
Voilà.
Alors, Dynasty, lui, a eu son personnage à part entière récurrent.
Dynasty, c'est la première fois qu'il y a un personnage ouvertement gay. Un personnage récurrent. C'est la première fois. Voilà. C'est le personnage donc de Stephen Carrington, fils de Blake Carrington. C'est un personnage positif. Ça, c'est vraiment remarquable par rapport à son père, qui est quelqu'un de très violent, de très agressif. Lui, il est positif. Attention, c'est très chaste. Hein. Il y a juste une petite accolade à un moment donné, une accolade.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas. Ces envahisseurs.
C'est les envahisseurs, oui. C'est une scène lutin.
Alors, il y a un fameux épisode où il a une accolade avec son amoureux. Et malheureusement, son amoureux donc, se fait assassiner sur le champ par le père de Steven. Et après, donc, il va y avoir un procès qui va durer toute une saison. Voilà. Mais comme ce qui est intéressant dans ce personnage-là, c'est que quand même, selon les annonceurs, selon l'audimat, le personnage va un coup devenir hétéro, un coup devenir bisexuel.
Comme si on hésitait, oui, effectivement.
Comme si on hésitait, voilà, le cul entre deux chaises. Et puis surtout, c'était en fonction des annonceurs publicitaires, parce que ce sont eux qui payent les séries télé. Et c'est bien que le premier acteur en a eu... plein d'eau, il est parti, il a dit moi ce que je veux c'est explorer ce personnage jusqu'au bout, je veux pas qu'il soit hétéro ou bisexuel, il est parti et c'est pour ça que ce personnage a eu un deuxième visage, c'est très célèbre ça dans l'histoire des séries américaines, donc il y a eu ce deuxième personnage qui interprétait Stephen Carrington.
Donc deux acteurs différents.
Deux acteurs différents pour le même personnage, puisque l'autre il a claqué la porte. Mais c'était quand même un personnage positif. Mais attention.
Je trouve parce que quand même l'homosexualité était vue un peu comme une malédiction un petit peu, il n'était pas heureux le personnage de Stephen Carrington.
Non mais
il y a un épisode célèbre où il fait son coming out d'ailleurs.
Oui, c'est exact. Oui, c'est la première série où il y a un coming out, absolument. Oui, oui. Mais
enfin, il n'est pas très heureux justement. Il hésite sur le mot.
Oui, mais attention, il n'est ni tueur ni pervers.
Il ne se suicide pas.
Il ne meurt pas de mort naturelle. Voilà.
Et puis il y avait John Collins.
Voilà. Alors c'est une série surtout hyper LGBT d'abord pour deux choses. C'est John Collins. Alors elle, c'est la méga bitch absolue.
Oui, c'est la queen bitch par excellence.
C'est la queen bitch par excellence. Ouais. Rappelez-vous ses choucroutes et puis surtout ses fameuses catfights. Combat de chat qu'elle faisait avec où elle se volait dans les plumes avec sa rivale, hein, la femme de Blake, ouais. Extraordinaire. Mmh. Et puis surtout, troisième point, c'était la dernière apparition à l'écran de Rock Hudson, qui était déjà très affaibli par le sida, qui était très creusé, et c'était sa dernière apparition où il jouait le rôle. Et moi, je me rappelle, à l'époque, je guettais les épisodes où il y avait Rock Hudson, puisque à l'époque, ben, on n'avait que des miettes, hein, dans les années 80.
C'est ça, exactement. Et puis d'autres séries aussi sont venues de plus en plus ouvertement gays. Alors, on parlait tout à l'heure, tous les deux, en off, de la série Xenia. Xenia la guerrière. Alors, tu avais quelque chose d'intéressant à dire sur le doublage de la version française et la version anglo-saxonne.
Voilà, ben là, on revient sur les engagés. La représentation des LGBTI sur les écrans français est absolument lamentable. On le voit d'ailleurs toujours aujourd'hui avec Cyril Hanouna, hein, qui fait quand même des records d'audience absolue, qui se permet de déverser les pires horreurs, les plus lamentables, les propos les plus homophobes, les plus ignobles.
Oui. En 2017.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la représentation des LGBTI en France se résumait dans les années 90 à une série télé produite par AB Productions qui s'appelait Le miel et les abeilles, où il y avait le personnage de Gérard, une folle tordue. Voilà. Ceci dit, positif, c'était un personnage agréable à suivre, bodybuildé. Et puis il y avait cet épisode absolument lamentable qui s'appelait le trou de balle, quelque chose comme ça, dans lequel le personnage de Gérard était absolument affolé puisqu'il y avait un trou de balle dans sa salle de bain.
Voilà. D'accord.
Donc c'est ça.
Son mur était troué.
Oui, son mur était troué par une balle.
Il avait.
Mais ça, on avait Michou sur TF1.
Fin, très fin, ça se mange sans fin.
Voilà. C'est fin comme du gros sel. Et puis donc on avait Michou sur TF1, on avait Le miel et les abeilles, et puis dans les années 90. Donc la série Xenia, qui est une série complètement crypto-lesbienne, ouais, à 100%.
Une série américaine, mais dont la thématique lesbienne était vraiment visible pour les lesbiennes, puisque souvent Xenia la guerrière, ben, pendant les marches, par exemple aux États-Unis, beaucoup de femmes s'habillaient en Xenia la guerrière, etc.
C'est une icône,
elle avait, Xenia. Voilà, elle avait une petite copine, d'ailleurs, dans la série. Alors même si on ne les voit pas s'embrasser, etc., on parlera plus tard. Hein,
c'était un vrai couple à l'écran.
C'était
un vrai couple à l'écran avec Gabriel. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les sous-entendus proprement sexuels étaient très clairs dans la version américaine, et sur la version passée sur TF1, ils avaient complètement gommé le sous-texte sexuel et lesbien. On voit là où on en est en France.
Oui, donc beaucoup de frilosité encore en France, alors qu'aux États-Unis, les choses commencent quand même à s'ouvrir un petit peu.
Elles s'ouvrent un petit peu.
Dans les grandes séries comme Roseanne, par exemple, il y a un épisode qui est consacré à un mariage homo entre deux gars. Par exemple, c'est une série très populaire, Roseanne, en plus, aux États-Unis, justement, qui voulait montrer les Américains réels. Donc, c'est des gens, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, c'est une famille obèse.
En fait, oui, bien sûr, voilà. Oui, bien sûr.
Série très attachante, d'ailleurs. Et il y a un épisode donc, qui parle de mariage homosexuel.
En fait, il va y avoir un gros marqueur, en fait, en 1997. Ça va être Hélène Dégénérès, donc comédienne, actrice, animatrice télé, qui, à l'époque, a... Et la star, l'héroïne de sa propre, d'une sitcom qui la met en scène, qui met en scène son personnage. Cette série s'appelle Hélène. Et il y a ce fameux épisode donc, qui va avoir un retentissement extraordinaire à travers tout le public LGBTI des États-Unis. Dans un fameux épisode, elle fait son double coming out, puisque son personnage dit « Yes, I'm gay ». Oui, je suis gay.
Et en fait, elle dit le mot gay.
Elle dit le mot gay.
Lesbienne. Voilà, voilà. Elle pourrait plus maintenant, parce qu'ils ont tranché aux États-Unis. Gay, c'est pour les hommes.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
À l'époque, non, c'était en discussion.
Il y avait notamment, voilà, les lesbiennes étaient un peu déçues qu'elles disent yes, I'm lesbienne. Bref, elle dit I'm gay. Ça, c'est un coup de tonnerre. Mm. Et on se rend compte aussi que les annonceurs pub ne se retirent pas. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être un public aussi qui serait réactif à des personnages de personnages principaux ouvertement homosexuels. Et à partir de 97, donc, vont se développer des séries proprement homosexuelles avec des thématiques et des problématiques proprement homosexuelles. Ce sont les Anglais qui vont donner le coup de feu avec une série absolument extraordinaire qui s'appelait rappelle-moi. Queer as Folk, bien sûr, 1999-2000.
Diffusé sur Canal+, à l'époque.
Pink TV.
Après, il a été diffusé sur Pink TV. Mais Canal+ avait acquis les droits avant. Elle avait diffusé avant. Après, on l'a revue sur Pink TV, c'est vrai.
Et surtout, c'était la première fois qu'on traitait de on suivait des personnages dans lesquels leur problématique était autre que le coming out ou autre que le sida, par exemple. C'était des personnages qui vivaient comme tout le monde, qui sortaient le soir, qui avaient des sentiments, qui voilà, c'était vraiment
Et qui en plus se passe non pas à Londres. Mais à Manchester. C'est un peu comme Les Engagés qui ne se passent pas à Paris mais à Lyon.
Mais qui se passe à Lyon, exactement. Voilà. Exactement. Et là, pour la première fois, on avait des propres problématiques gays. Et c'était vraiment révolutionnaire, en plus avec le côté complètement pop anglais, explosif. Il va y avoir 2 ans plus tard un remake américain qui, pour le coup, lui, va énormément stéréotyper les personnages. C'est une série que je n'aime pas du tout, le remake américain. Je trouve les acteurs complètement tartes. et puis voilà, édulcoré, et puis aussi Queer as Folk est la première série où on voit des personnages gays couchés ensemble. Il y a notamment une scène d'Anulingus, moi dont je me rappelle encore.
Ah, j'ai oublié celle-là, on va que je la revoie, la série.
Quasi pas simulée, quoi, c'est quand même.
Et puis c'est plus audacieux parce que c'est britannique, encore une fois. Ouais. C'est plus excentrique, plus audacieux. La série américaine, bon, je serais peut-être moins dur que toi, avait aussi un avantage, par contre, c'est d'avoir développé beaucoup plus les personnages lesbiens que dans la série britannique.
Qui était une série proprement gay.
Alors que la série américaine a aussi aménagé un petit peu les lesbiennes en créant notamment un couple de femmes homoparentales. Voilà. Alors, ça, c'est très intéressant. Queer as Folk, je dirais qu'aux États-Unis aussi, ça continue en dehors des séries proprement gays. Je voudrais juste citer Ricky Vasquez. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, c'est l'adolescent de la série Angela, de Angela 15 ans. Enfin, ce n'était pas le titre en anglais, évidemment. C'était My So-Called Life, je crois, en anglais. Donc, il écrive les déboires d'adolescents en quête d'identité, etc. Tu sais, on connaît, il y a déficit de l'adolescence. L'homosexualité est évoquée, même plus qu'évoquée, par un des personnages d'adolescent, ami d'Angela Chase, s'appelle Ricky Vasquez. On a vu aussi personnage, alors dans Melrose Place, le personnage Matt Fielding.
Justement, dans Melrose Place, justement, donc, qui était un peu remake de Dynasty, on va dire, qui était destiné au grand public américain, on voyait le premier baiser. Entre garçons, à travers ce personnage dans Melrose Place, qui ressemble beaucoup à Dynasty aussi par le personnage de Queen Beach joué par Heather Locklear. C'est une série quand même très très similaire de Dynasty. Effectivement, Melrose Place, premier baiser entre garçons, Queer as Folk, première scène de sexe entre garçons.
Parce que voilà, arrivent maintenant des scènes qui sont un peu plus explicites, on va dire. C'est pas seulement le personnage est homo ou lesbien, mais vraiment il y a des rapprochements, il y a des contacts, on va dire, comme il peut y en avoir entre deux personnages hétérosexuels. Et notamment, il y a une série aussi en Grande-Bretagne qui s'appelait EastEnders, qui a été une série qui a eu un succès phénomène très populaire, une sitcom très populaire, où pendant des semaines et des semaines, la population anglaise, les téléspectateurs britanniques, ont attendu avec impatience le moment où deux personnages filles lesbiennes allaient s'embrasser. Vont-elles s'embrasser ou pas? Oui, elles se sont embrassées à un moment, mais ça a fait l'objet de beaucoup d'articles, de reportages. Ça a fait un véritable cliffhanger et tout le monde s'attendait à ce que les deux filles lesbiennes allaient s'embrasser. Ça évoquait beaucoup aussi les problèmes d'homophobie qui existe aussi en Grande-Bretagne, bien entendu, et malheureusement, je dirais. Et voilà, donc ensuite, tu as parlé de Matt Fielding dans la série Melrose Place, dans Dawson, je crois, il y a eu aussi un baiser entre deux garçons. C'était au début des années 2000, tout ça. Hein, on voit, ça y est, les gens, les gays se rapprochent. Et puis, il y a eu ce que tu disais, les séries proprement gays. Queer as Folk.
Et puis le pendant féminin de Queer as Folk, c'est bien sûr The L Word, qui est une véritable révolution dans le monde des séries télé. Ça se passe à Los Angeles, dans le milieu quand même un peu aisé, quand même, il faut le dire, hein, et dans lequel on voit une bande de filles qui couchent, qui ont des problématiques proprement lesbiennes. La série donne une visibilité des couples homoparentaux tout à fait inédite à la télévision. Il y a même une scène, je me rappelle, me semble-t-il, de PMA artisanale. Donc c'est vraiment proprement lesbien, avec des personnages très étonnants, et aussi une des meilleures visibilités, une des premières meilleures visibilités de personnages trans à travers un personnage qui s'appelait, je ne me rappelle plus, mais qui était FTM, justement, Female to Male. Et donc, c'est la première fois qu'on voyait le couple homoparentaux, des personnages entamer des transitions. C'est tout à fait révolutionnaire. Ouais.
Alors, on va continuer un petit peu après notre émission avec toi, Yvan. avant d'écouter notre artiste que tu nous as amené,
alors,
c'est une Queen Beach.
Moi, tu m'as dit, tu as carte blanche.
Oui, c'est ta carte blanche, mais avant, je vais terminer. Il y a une chose qu'on, nous, on est très axé sur, bon, la France, c'est notre pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, parce que c'est des séries qui sont importées en France. Il existe dans d'autres pays des séries gays qui sont moins connues, notamment, j'ai noté qu'en Allemagne, dans les années 90, il y a eu 4 séries, non, ni plus ni moins que 4 séries, dont tous les personnages principaux étaient gays, enfin LGBT. Aucune de ces séries n'a jamais été vue en France, mais il faut le signaler, hein, l'Allemagne qui a toujours été quand même un pays aussi précurseur depuis très longtemps sur les droits des LGBT. J'ai trouvé ça tout à fait par hasard en faisant des recherches pour l'émission. Je ne dirai pas les titres en allemand, je ne parle pas allemand, mais il y en a 4, on peut aller sur internet et il y a les titres. C'est vrai qu'il faut en parler aussi. Il n'y a pas que la télévision britannique ou américaine. Il y a aussi la télévision allemande qui a fait des choses très avant-gardistes. Donc, ta carte blanche, c'est une copine de l'émission. D'ailleurs, je tiens à le préciser, nous l'avons interviewée pour Pluriel Gay. Il y a quelques années, c'est Gilles qui avait fait l'interview. C'est une très grande Queen Beach de la scène parisienne, nationale et bientôt peut-être internationale, puisqu'elle vient de sortir un album que tu nous as amené.
Son premier album, c'est Yvette Leglaire, qui était passé donc, chez Ruquier samedi dernier, qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cultures LGBTI vendredi dernier au TNG, donc dans le 9e arrondissement
à Lyon.
Et elle vient de sortir son album, et comme il fait très chaud, j'ai choisi cette chanson. C'est chaud, La Libido.
Je rappellerai, c'est une superstar du point virgule aussi dans le Marais à Paris.
Prends de place.
C'est chaud, c'est chaud la libido chez tous les animaux.
Les bonobos ne pensent qu'à se satisfaire, ils préfèrent l'amour à la guerre. Les grenouilles adorent ces mères à plusieurs, écarter les cuisses tout en cœur. Le mérou a trouvé la solution, quand y'a plus de mal à la maison. Les femelles se mettent à changer de sexe sans même l'ombre d'un complexe. Hola, hola, c'est chaud la libido chez tous les animaux. Olé, 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 et tout le monde prend son pied, même les invertébrés. Olé, 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 on ne va pas s'ennuyer sur l'arche de Noé. Hola, hola, c'est chouette, au lieu de se prendre la tête, aimons-nous comme
Chaud, c'est chaud, 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 c'est chaud la libido chez tous les animaux.
Les girafes mâles se caressent le cou avant de s'en mettre un petit coup. Pour les jeunes morses, c'est la même chanson, puis ils choisissent toutes les options. Quant au caméléon, c'est naturel, choisir les couleurs de l'arc-en-ciel. Et les chauves-souris sont toutes des copines, y'a qu'à voir Batman et Robin. Hola, hola, c'est chaud la libido chez tous les animaux. Olé, 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 et tout le monde prend son pied, même les invertébrés. Olé, 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 on ne va pas s'ennuyer sur l'arche de Noé. Hola, hola, c'est chouette, au lieu de se prendre la tête, aimons-nous comme des bêtes.
Chaud, c'est chaud, c'est chaud la libido chez tous les animaux.
Monsieur Sèche se déguise en demoiselle pour ne pas être reconnu et se rapprocher ainsi des jouvencelles. Mais quand il tombe sur un poilu, les escargots ne se posent pas de questions puisqu'ils sont tous filles et garçons. Et les morpions changent de sexe chaque soir. Oui mais là, c'est une autre histoire. Hola, hola, c'est chaud la libido chez tous les animaux. Olé, 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 et tout le monde prend son pied, même les invertébrés. Olé, 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 on ne devait pas s'ennuyer sur l'arche de Noé. Hola, hola, c'est chouette, au lieu de se prendre la tête, aimons-nous comme des bêtes. Olé, 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 et tout le monde prend son pied, vive la diversité. Hola, hola, c'est chouette, aimons-nous comme des bêtes et sauvons la paix.
parler.
Eh bien, il n'y a pas que la libido qui est chaude, parce que dans les studios, on crève de chaud aussi. Avant de continuer, on va passer donc le deuxième extrait concernant les engagés. Donc, tu parlais tout à l'heure d'un acteur qui jouait, donc, qui lui-même rebeu d'ailleurs, qui jouait le rôle, son propre rôle, je dirais, de rebeu, mais gay dans la série, alors qu'il ne l'est pas dans la vie réelle. Dans les engagés, on va écouter un extrait donc, d'interview qu'avait fait Jeffrey Jordan à ce moment-là.
Bonjour, alors je m'appelle Mehdi Mescar, j'ai 21 ans. Et j'interprète le rôle d'Hicham sur la série Les Engagés qu'on tourne à Lyon. Par rapport à mon parcours, j'ai commencé à jouer au théâtre en Italie quand j'avais 10-11 ans. En fait, parce que mon père, il avait une passion, c'était la magie. Alors j'ai commencé à monter un peu sur scène avec lui. Et puis voilà, j'ai fait du théâtre amateur. Et quand je suis arrivé en France à 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir un petit truc de silhouette dans le film de François Ozon, Dans la maison. Et voilà, après ça, j'ai trouvé un agent et j'ai commencé à passer des essais, des castings et voilà, à faire des pièces, un peu moins, mais voilà, beaucoup de castings et puis des courts-métrages, des longs-métrages, des séries.
Alors, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de productions sur ce thème, le thème LGBT, mais il y en a eu beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que, selon toi, elle est différente, cette série ?
Alors déjà, je pense que cette série, sa qualité, c'est que c'est une série qui donne vraiment un aperçu de la communauté LGBT, même si évidemment ça suit le personnage d'Hicham et qu'on découvre son ouverture tout au long des épisodes. C'est vraiment une série qui donne un vrai aperçu de la communauté LGBT sans forcément des clichés, parce que Sullivan, l'auteur, il a travaillé dessus pendant 7 ans, il a vraiment milité au sein des associations LGBT, donc il connaît vraiment le milieu et voilà, il a réussi à retranscrire en fait on va dire l'ambiance du milieu LGBT de manière assez réelle en fait.
C'est compliqué mes questions.
Oui.
qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant dans ton rôle ?
Qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant ? C'est assez plaisant de voir qu'il y a une vraie évolution, en fait, une vraie évolution de
mentale,
mais aussi physique, une ouverture au monde, voir comment ce personnage qui se retrouve enfermé dans son petit appart chez ses parents arrive à s'ouvrir et à se lâcher au monde.
Et la plus déplaisante ?
Et la plus déplaisante, qu'est-ce que la plus déplaisante ?
Par exemple, embrasser un garçon ?
Ah non, c'est-à-dire si c'est déplaisant ça.
En tant qu'acteur sur un rôle qui est pas forcément le tien dans la vie réelle.
Non, puisque c'est un rôle, mais c'est pas en tant qu'Hicham, c'est très plaisant. Après, en tant que Mehdi, je n'embrasserai pas de garçon. Enfin, si ça arrive en soirée, j'en sais rien. Je reste ouvert à la question, comment dire. J'adore ta question.
On allait forcément te la poser un jour. Hein.
Ouais, non, c'est clair, c'est clair.
Ne serait-ce qu'après la diffusion du film.
Oui, oui. Non, c'est pas déplaisant, puisqu'en tant qu'Hicham, en tant que personnage, évidemment, je découvre ça, et même en tant qu'être humain, je découvre ça, c'est quelque chose que je connais pas particulièrement. Et donc, non, c'est pas forcément déplaisant. Non.
Et pourquoi tu as accepté de faire partie du projet et... Est-ce que tu te sens porteur d'un message ? En plus, tu es jeune, tu as 21 ans, c'est ça ? Voilà, ouais, donc par rapport à ton âge, justement, est-ce que tu penses, à 21 ans, à être porteur d'un message en ayant accepté ce rôle ?
Alors, évidemment que c'est un plaisir de participer à un projet qui a aussi une envie de bouger les consciences, d'ouvrir les esprits. Et oui, je suis très content j'ai l'impression qu'avec ce projet, je peux aider d'une manière ou d'une autre à changer les choses, à ouvrir un peu, oui, les esprits. Et je pense que le projet, le but aussi de Sullivan en faisant cette série, même si heureusement il y a de plus en plus aussi de séries qui sont faites aussi sur des minorités, que ce soit les étrangers ou les homosexuels, etc. Enfin.
Tu es étudiant encore ?
Je prends des cours de théâtre quand j'ai le temps et voilà.
D'accord.
Je fais des stages.
Parce que du coup, j'allais te demander, est-ce que après la diffusion du film, tu vas aller le porter dans les universités, choses comme ça ? Enfin, est-ce que tu vas est-ce qu'il y aura une suite après, ou est-ce que une fois que c'est fini, tu passes à autre chose ?
Ah non, mais carrément. J'adorerais pouvoir porter le projet dans les universités, dans les écoles, en parler. En préparant le personnage, j'ai essayé de me renseigner un maximum sur la situation. Après, bon, évidemment, j'ai déjà j'ai déjà fréquenté le milieu LGBT par des amis, etc. Donc je connaissais déjà certaines choses, mais en fait c'est une découverte continue. Même là, en tournant ici au Cap Opéra par exemple, il y a une fille qui est trans et qui m'a donné pas mal d'informations. C'est toujours une découverte. Donc oui, je porterai le projet aux universités, etc. s'il y a la possibilité.
Merci.
Voilà, nous sommes de retour. Alors, nous allons continuer dans la série des séries. Et justement, LGBT. Alors, tu voulais parler des personnages positifs, parce que donc il y en a de plus en plus.
Ben, c'est-à-dire que après la révolution Queer as Folk, après la révolution The Hell World, on va avoir des personnages très positifs dans des séries hyper mainstream. Je pense notamment le personnage joué par Michael C. Hall dans Six Feet Under.
Excellente série, différente sur Canal Jimmy. La première
et magnifique, fois. Et magnifique personnage. Oui. Où il est en couple avec un black, qui dépasse le simple stade du coming out. Hein, c'est des vraies problématiques. C'est un des personnages principaux de la série. Il y a aussi magnifique portrait aussi de lesbienne aussi dans la série Buffy contre les vampires, notamment
tout à fait, oui.
Dans Urgence. Voilà. Donc les personnages deviennent positifs et on commence à parler des problématiques propres aux LGBT et on va arriver à une série absolument remarquable, toute récente, qui s'appelle Looking,
oui.
Qui suit...
une série de HBO, de réseau HBO, je crois, qui a été diffusée sur OCS en France, la première diffusion.
Moi, j'ai téléchargé pour te dire.
Chut, allons.
Mais donc, on suit les aventures de trois amis à San Francisco. Aujourd'hui, c'est un polaroid de qu'est-ce que c'est qu'être gay.
Dans les années 2010.
Des années 2010, dans une grande ville et quand même...
dans une grande ville emblématique, surtout, avec un véritable passé gay, lesbien, etc.
C'est
une ville historique, dirons-nous.
Absolument remarquablement joué. Malheureusement, il n'y a eu que deux saisons qui a été clôturée par un téléfilm, faute d'audience. Néanmoins, cette série aborde des sujets totalement inédits à télé, que sont par exemple la PrEP. La PrEP, le mariage homo, parce qu'il y a deux personnages là qui vont se marier, et on parle de la PrEP, mais vraiment dans le quotidien. Les trois personnages, les personnages principaux sont sous PrEP, par exemple.
Ouais.
C'est vraiment un polaroid d'aujourd'hui, tout comme Queer as Folk était un polaroid des années 90-2000.
Voilà. Absolument.
Malheureusement, cette série absolument remarquable donc a cessé, et malheureusement, elle a fait l'impasse sur une autre série totalement remarquable, suédoise, qui s'appelle Snow, une série de 3 heures, de 3 épisodes, qui a fait un véritable raz-de-marée dans les audiences en Suède, puisque un Suédois sur deux l'a suivi. Ça parle du sida des années 80, et aujourd'hui, on commence à évoquer notre histoire collective via donc des séries télé. Et là, très récemment, une série absolument remarquable, produite par Gus Van Sant, écrite par Dustin Lance Black, le scénariste de Harvey Milk. C'est When We Rise, que vous pouvez trouver...
qui se passe toujours à San Francisco, d'ailleurs.
À San Francisco, alors là, c'est tout à fait...
C'est une fresque historique, en fait. Hein.
C'est une fresque historique entre quatre personnages, issus des quatre coins des États-Unis, qui vont se retrouver à un moment donné à San Francisco, et ça raconte 40 ans de militantisme homosexuel, féministe, lesbien, gay... 40 ans, ils vont parcourir 40 ans de militantisme.
C'est une série très militante.
Et c'est l'histoire des États-Unis après tout, puisque ils arrivent à San Francisco, on se rend compte, ça je ne savais pas, qu'il y avait des rafles d'homos, des homos tabassés par les flics, les premiers mouvements de résistance, les premiers mouvements aussi féministes, le sida va arriver, les premiers mouvements aussi donc de d'entraide et de lutte. Ça parle aussi de mariage. Et ça se termine d'ailleurs sur le mariage de deux femmes. C'est remarquable. Si vous êtes habile, cherchez-le sur Internet parce qu'il n'est pas encore sorti en DVD. When We Rise, dont les deux premiers épisodes ont été réalisés par Gus Van Sant. D'ailleurs, on parle...
Diffusé aussi par Canal+, d'ailleurs.
Par Canal+, oui, c'est vrai. Et puis, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a des personnages d'homo qui apparaissent aussi dans des séries comme Game of Thrones, par exemple, de manière tout à fait putassière.
Parce que t'aimes pas tellement la série.
Ah, je ne supporte pas. Et d'ailleurs, c'est... Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait une scène de sexe. Voilà, c'est très dans la mouvance. Il y avait ça aussi dans la série Les Tudors, des scènes gays.
Mais maintenant, on intègre le fait qu'il faut aussi qu'il y ait des scènes de sexe homo. dans les séries, ce qui n'aurait pas été le cas.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est fait un peu pour le côté un petit peu clinquant, j'ai l'impression.
Alors, tout à l'heure, on parlait de Snow, donc la série suédoise. Donc voilà une série, je parlais des Allemands, voilà une série qui n'a pas été diffusée en France.
Non.
Et qui n'est ni américaine, ni anglaise, ni britannique, donc ni française.
Alors par contre, elle n'a pas été diffusée en France, par contre, elle a été éditée en DVD en France.
Oui.
Chez nos amis d'Outplay, vous pouvez acheter le DVD auprès d'Outplay. C'est absolument merveilleux. Malheureusement, on n'en a pas parlé, puisqu'au même moment est sorti Looking en France.
Alors, j'évoquais aussi une chaîne qui a disparu, qui était formidable pour les diffusions de séries télévisées américaines. À l'époque, c'était Canal Jimmy, qui n'existe plus maintenant, et qui a eu la première émission, d'ailleurs, LGBT, du PAF, ce qui s'appelait Good As You. C'est présenté par deux hommes, deux femmes, et une femme trans. Femme transgenre, c'était pas mal. Ça a duré qu'une saison, malheureusement, mais c'était la première tentative d'émission LGBT avant Pink TV. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, est-ce qu'on peut parler peut-être rapidement? Ah oui, alors il y a une série, je ne sais pas si tu voulais en parler, c'est Will and Grace, mais c'est un petit peu particulier, Will and Grace. Je ne sais pas si tu connais cette série. C'est une série, elle, par contre, qui est formatée pour le grand public. C'est une série très gentillette qui met en scène, en fait, deux gays et deux femmes hétérosexuelles, en réalité, et qui font deux couples, en fait, d'amis, qui forment un quatuor au total, avec, bon, Will and Grace qui sont colocataires et qui représentent un petit peu cette amitié amoureuse qui existe entre les hommes et les femmes. C'est très gentillet, c'est traité de façon très pudique, de façon à ce que ça soit familial, en fait. Et puis, il y a le pendant, donc, dans ce quatuor qui est représenté, donc, par un gars un peu plus exubérant. Et puis une personne qui est un peu Queen Beach aussi, qui est la meilleure copine du gars en question. Bon, enfin bref, en tout cas, c'était une série, certes, voilà, axée sur l'homosexualité, mais avec quelque chose de très familial, de très grand public. Donc c'était très gentillet, il n'y a pas de scène de baiser, on se rapprochait jamais trop. Dans le même style, un petit peu plus peut-être corsé, en France, on a eu Clara Scheller. Je ne sais pas si tu te souviens de cette série de 2005.
Je sais pas si j'ai jamais regardé, mais je sais que...
Voilà, et alors, qui était également deux colocataires, donc Clara Scheller jouée par Mélanie Doutet, et son colocataire gay, donc évidemment Frédéric Diefenthal, et on suit un peu leurs aventures amoureuses en parallèle, je dirais. Et puis il existe toujours cette ambiguïté entre les deux personnages, d'amitié amoureuse, Clara Scheller qui est certainement secrètement amoureuse de Guillaume, mais l'homme inaccessible, tu comprends, bref, voilà. Et puis il y a une série aussi, Les Bleus, je sais pas si tu connais cette série. C'était une série qui décrivait, donc, il y a eu plusieurs saisons, je crois, une série française, hein, qui décrivait les différentes vicissitudes de policiers novices qui arrivaient à la BAC, hein, dans un service de la BAC, et le capitaine de la BAC en question était gay, vivait avec quelqu'un, c'était ouvert, hein, tout le monde le savait, je veux dire, elle était ouvertement homo, vivait ouvertement avec un autre homme, il s'appelait, donc dans la série, il s'appelait Yann Berthier, c'est le capitaine de la BAC en plus, il avait un rôle important, il était très virilement interprété par l'acteur Mathieu Delarive, très bel acteur, bien musclé, avec les abdos, tout ce qu'il faut. Il y a eu 4 saisons, oui, j'avais noté, 4 saisons. C'était dans les années, une série de M6, dans les années 2005, 2006, 2007, voilà. Je ne sais pas si vous voulez encore parler de quelque chose.
Parce que... Oui, une série trans.
Oui, alors la série trans.
Qui a marqué les esprits. Ouais.
Qui a marqué les esprits. Alors, il y a maintenant, plus récemment, des personnages trans apparaissent, personnages transidentitaires. Et on a vu la série Transparent, donc, qui est une série américaine qui a été diffusée sur... qui doit être une série, je pense, aussi parmi les nombreux réseaux de télévision américaine. Je crois que c'est HBO qui l'a faite. Cette série qui a été diffusée par OCS. Il diffuse beaucoup de séries de HBO, d'ailleurs. Donc c'est l'histoire d'un père de famille qui, pratiquement à l'âge de la retraite, réunit ses 3 enfants, il s'appelle Morton, et il vient leur parler de quelque chose de très important, il les réunit spécialement pour ça, et il leur annonce qu'ils n'ont pas qu'il est malade, non pas qu'il leur a cédé tout son argent et qu'il va partir se retirer dans une secte en Inde, non, il leur dit « je suis transidentitaire, je suis en réalité une femme et j'ai l'intention de vivre dans mon identité de genre à partir de maintenant ». Voilà, c'est un professeur à la retraite. Voilà, il devient donc Maura, et donc c'est cette série qui a eu plusieurs saisons, parle de transidentité. Alors j'ai demandé à Claire, qui était là la semaine dernière, ce qu'elle en a pensé. Alors vite fait, je donne son avis, elle me l'a écrit, c'est Claire, donc, de l'association Mobilise Nous, qui m'a expliqué que c'était assez, quand même, assez réaliste quand même, hein, que c'était plutôt bien fait sur les relations familiales, bien décrites, questions... Les questions aussi que se posent les personnes transidentitaires, donc je cite Claire, la découverte des traitements hormonaux, la vie cachée avant d'assumer, le bien-être, lorsqu'on s'habille dans les vêtements de son genre de destination, l'acteur choisi représentatif des personnes qui amorcent la transition, l'aspect physique est encore incertain, etc., etc. Elle dit que ça colle vraiment de près à la réalité d'une partie des personnes transidentitaires. Voilà.
Et en France, récemment, il y a une série qui s'appelait Ainsi soit-il.
Oui, bien sûr, qui se passait dans un séminaire qui a été diffusé sur Arte et où l'homosexualité a une grande place, effectivement.
C'est fou, quand même.
Un des personnages, effectivement, deux des séminaristes entretiennent une relation.
Ça arrive si rarement, après tout.
Ça m'a surpris dans le cadre de l'église. J'étais très surpris, effectivement. Voilà, donc malheureusement, l'émission touche à sa fin. Yvan, merci d'être venu. On aura encore beaucoup de choses à dire. On n'aura pas le temps d'écouter le troisième son dont j'avais parlé parce que j'ai des annonces à faire pour samedi. Ce n'est pas grave, je le diffuserai éventuellement la semaine prochaine ou dans le cadre d'une autre émission consacrée aux séries télévisées ou à d'autres choses avec toi, Yvan. Par exemple, nous avons fait beaucoup d'émissions ensemble sur différents thèmes, mais il me faut absolument faire des annonces très importantes. J'ai promis de le faire. Je vais le faire. Samedi, on le sait, donc c'est la marche des fiertés. Et le départ se fait Place Bellecour cette année à 14h, si je ne m'abuse. Donc rendez-vous Place Bellecour à 14h. Et il y a des petits événements un peu particuliers cette année, des nouveautés. Alors je vais commencer par, si j'arrive à le retrouver, il va y avoir un patchwork. Voilà, un patchwork à partir de midi et demi sur la Place Bellecour. Chacun pourra amener des morceaux de tissu, rose de préférence, n'importe quel type de tissu, qui vont être donc mis ensemble, assemblés pour faire un peu, selon l'idée du patchwork. Hein, concernant les personnes mortes du sida. Et là, il s'agira d'un patchwork dans un autre cadre, un cadre pour donc, la marche, en fait, hein, un patchwork des LGBT. C'est à partir de midi et demi, c'est les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, le couvent des Traboules, qui organise ça. C'est à midi et demi, avant la marche, rendez-vous aux Place Bellecour, vous pouvez venir avec vos morceaux, vos tissus, roses de préférence. Tissu, papier, tout est accepté. Voilà.
C'est génial. Merci les sœurs.
Et puis alors là je vais lire tout bêtement ce qu'on m'a envoyé. On l'avait évoqué un petit peu lorsque Friss était venu, la dernière fois que l'association Friss est venue à l'émission ici. Alors l'association Friss qui s'est mise donc en partenariat avec d'autres associations, le CRS, le GEM Nova, la PASS, qui est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, se sont mis ensemble pour organiser, dans le cadre de la marche, une marche slow. Hein, donc, voilà, je vais y arriver. Au sein de la marche du samedi 17 juin,
prompteur.
Une safe zone. Oui, là, c'est vraiment le prompteur. Parce que je lis le mail que m'a envoyé l'association Friss, notamment Daniel Autier et Jariten. Ainsi, au sein de la marche de ce samedi 17 juin, une safe zone sera mise en place. Une safe zone sera mise en place, a priori, dans les premiers chars de la marche. Des fauteuils roulants, nos chars, sont prévus, ainsi que des accompagnateurs pour pousser les 10 fauteuils qui pourront accueillir des personnes ayant des difficultés de mobilité ou accompagner sur la marche des personnes en situation de handicap visuel, par exemple. On l'a compris, en fait, ils se sont mis ensemble pour que la marche devienne accessible aussi aux personnes souffrant d'un handicap. C'est un début, me disent-ils, nous espérons voir ce groupe grandir davantage dans les années à venir. Quiconque souhaite rejoindre Marche Slow peut prendre contact avec nous, soit sur la page Facebook de Friss, soit en téléphonant directement à l'association ou en envoyant un mail à coord.friss@sfr.fr. Alors, ce qui est à la marche, on a vu des fois, parfois, c'est vrai, des personnes handicapées en fauteuil roulant ou, par exemple, des personnes sourdes, ce qui est peut-être un petit peu plus facile pour participer à une marche quand on est une personne sourde. Mais c'est vrai que là, il y a des personnes comme handicapés moteurs, des handicapés visuels également. Donc, en fait, ce qu'il s'agit de rendre accessible à la marche aussi aux personnes donc souffrant, enfin victimes ou je ne sais pas comment dire, qui sont en tout cas handicapés moteurs, qui ont des problèmes de locomotion, etc. Donc on les encadre et ils sont au sein de la marche, ils participent activement. C'est une très bonne initiative.
Absolument.
Voilà. Excellente initiative. Et bien du coup, j'ai tellement fait vite que on a encore 2 minutes.
On peut causer, il va être l'oglaire.
Oh ben, je sais pas. Oui, alors on va nous la couper, il va être
non,
l'oglaire
non,
là,
non,
parce
non,
qu'on a 2 minutes.
On va pas la couper.
On va pas la couper, non. Ouais. Donc, parce que là, bon, on a quand même plus que 2 minutes. Ces chansons durent au moins 3 minutes.
En tout cas, moi,
on peut dire quand même qu'elle a sorti un album. Yvette Leglaire.
Elle a sorti un album famé.
Voilà.
17 chansons originales. Mmh. Un très bel hommage à Dalida, qui est absolument magnifique.
Ouais. C'est la reine des hommages, d'ailleurs. Elle adore rendre des hommages sur scène, Yvette Leglaire.
Et puis, elle adore péter les dents aussi à ses rivales, à ses sœurs qu'elle appelle, à toutes les chanteuses, Sylvie Vartan. Tout le monde en prend pour son grade. C'est absolument génial. C'est très drôle.
Elle appelle des hommages, d'ailleurs.
Oui. Et puis, oui, si on va à Paris, il faut aller la voir. C'est à 22h30 au point virgule dans le Marais.
Voilà. Le dimanche.
Voilà, parce que là, il n'y avait pas son pianiste à Lyon, malheureusement, oui. Parce qu'il paraît qu'elle, a, paraît qu'elle pète les dents à son pianiste.
Ah oui, elle lui crache dessus, enfin, le postillon, c'est affreux, il est obligé d'ouvrir un parapluie pour... enfin, et puis bon, elle l'assaisonne bien, quoi, le pauvre... Voilà, c'est un très bon spectacle. Si vous êtes vous passez par Paris, allez-y. Et puis elle est venue, donc comme tu le disais, pour l'ouverture de la quinzaine des fiertés.
On LGBTI.
Rappelle, voilà, on rappelle dimanche.
Dimanche, la voir. Deux projections à 18h et 20h. Et puis après la marche, très important, tous rendez-vous pour l'Apéro Pride au centre LGBTI de Lyon, oui. Où la rue des Capucins est fermée pour nous pour faire la danse.
Pluriel gay.
Et ben voilà.